Merci beaucoup de votre accueil. Vaste question. Hein. Je suis bien humble devant une question. Alors, je suis interloqué parce que vous avez pris votre Bible. Moi, je n'ai pas pris mon droit canonique. Il est dedans, je suis bien sûr. Alors, je vais essayer de vous présenter le droit canonique, un peu les procédures de nullité de mariage. Alors, je ne vais pas rentrer évidemment dans le détail des procédures. Je vais vous en parler. Je voudrais juste, avant, vous dire quelques petites choses sur le droit de l'Église. Pourquoi est-ce qu'on a un droit de l'Église ? Alors, je suis assez frappé dans le livre d'Osée. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Mais souvent, on oppose la justice et la miséricorde. Et en fait, Osée promet toujours de faire avancer son peuple dans le pardon en le conduisant dans la justice. Et donc, en fait, la justice n'est pas opposée à la miséricorde. La justice découle de la miséricorde. Et là, on a une vraie conversion de notre tête à vivre, et en fait, qui est assez propre, pour tout vous dire, à notre mentalité française qui a horreur du droit. On est un peuple franc-tireur, et on n'aime pas le panneau 130 sur l'autoroute. Non, c'est vrai. Vous êtes comme moi. Bon, j'ai fait attention au radar en venant, mais on n'aime pas le panneau 130. On n'aime pas la loi qui, spontanément, dans notre cœur, nous fait croire que nous sommes contraints dans notre liberté. Vous savez, c'est exactement le raisonnement que le malin a fait faire à Adam et Ève dans le livre de la Genèse. Il nous fait croire que la loi de Dieu est là pour l'enquiquiner, pour ne pas dire autre chose. Voilà. Et donc, en fait, quand on parle de droit dans l'Église, on se dit, mais mon Dieu, pourquoi l'Église a un droit? Pourquoi elle s'embête avec des règles? Pourquoi elle s'embête avec des procédures? Eh bien, vous savez, la réponse, elle est toute simple. Vous et moi, nous ne sommes pas saints. Et que tant que vous et moi, nous ne sommes pas saints, eh bien, l'autorité qui est au-dessus de nous a un tout petit peu besoin de réguler nos ardeurs. Voilà. Parce qu'en fait, quand nous marchons dans la sainteté de Dieu, voyez ce qu'a dit Osée, nous marchons spontanément dans la justice. Nous marchons spontanément dans la justice. Alors vous voyez, le droit canonique, il peut avoir la réputation d'être aride, il peut avoir la réputation d'être austère, et pourtant, plus largement aussi, comme dans la société civile, les hommes de loi font souvent figure d'ergoteurs, d'enquiquineurs, etc. Et pourtant, toutes les sociétés se sont toujours fondées sur un droit. Cicéron le disait déjà, il n'y a pas de société sans loi. Et il y a une phrase de Lacordaire que j'aime beaucoup, que je cite toujours à mes étudiants de droit canonique. Entre le faible et le fort, entre le faible et le fort, la liberté opprime, la loi libère. C'est assez juste. Enfin, c'est pas assez juste, c'est très juste. Entre le faible et le fort, quand il y a la liberté, c'est le fort qui l'emporte. Quand il y a la loi, elle protège et elle libère. C'est exactement ce que nous essayons de faire dans l'Église avec le droit canonique. Et donc le droit canonique, il est au cœur de toutes les matières et les sciences de l'Église. Il est au cœur de la théologie, il est au cœur de la morale, il est au cœur de l'ecclésiologie. Ah, vous savez, dans le droit canonique, on distingue deux choses sur lesquelles je vais revenir et qui est une distinction fondamentale. Et vous, avec cette distinction, vous faites la différence entre un bon canoniste et un mauvais canoniste. La distinction fondamentale, c'est qu'on distingue entre le droit divin et le droit ecclésiastique. C'est-à-dire le droit divin, c'est ce qui nous vient de Dieu directement, c'est ce qui est fondamental à la vie de l'Église, auquel on ne déroge pas. Et puis le droit ecclésiastique, c'est tout le droit que l'Église se donne dans un moment donné de son histoire, parce qu'elle a besoin de s'organiser comme cela à un moment donné de son histoire. Mais on pourrait changer. Je vous donne un exemple. Le baptême se célébrera toujours avec de l'eau, et avec la parole, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Et puis, ça, c'est du droit divin. Dieu nous l'a donné. C'est comme ça et on ne changera jamais. C'est dans la Bible. Ça vient de Dieu. Et puis, on s'est levé un beau matin dans l'histoire de l'Église et puis on s'est dit que ça serait quand même plus simple que le pape soit élu par les cardinaux. C'est Dieu ou c'est du droit ecclésiastique? Bon, non, c'est du droit ecclésiastique. Et si un jour un pape se lève un matin et qui se dit « j'en ai marre de ces cardinaux » et on change de méthode, eh bien on changera de méthode. Voilà, vous voyez? Et pourquoi le conclave est arrivé un jour? Eh bien parce que les cardinaux qui ne faisaient pas le boulot se sont dit « on est quand même bien mieux sans le pape ». On empoche et on gère nous-mêmes. Et bien du coup, on ne va pas élire le pape, on va traîner un peu. Et puis le prince en a eu un peu marre. Il a dit « bon écoutez, vous voulez pas élire le pape? Très bien. Je vais vous enfermer, conclave, conclavé. Puis le jour où vous serez décidé à élire le pape, vous l'élirez. » Voilà. Et puis ça a donné le conclave, règle de droit. Voilà. Pour éviter qu'il soit tenté de s'accaparer le pouvoir. Voyez ? Entre le faible et le fort, la loi libère. Alors, je voudrais toute société... Là aussi, pour un peu refonder le droit canonique, je voudrais que vous reteniez ça. C'est un trépied assez simple que les moralistes ont monté pour définir ce que c'est qu'une société. Une société, elle est toujours fondée sur trois pieds. Un trépied, qui est la force, le droit et la valeur. Comment on peut définir la force? Rapido, hein. La force, c'est le pouvoir exécutif, le pouvoir économique. Une société sans pouvoir économique, ça ne va pas très loin. Donc le pouvoir militaire, le pouvoir technologique, etc. Toute la force. Le droit, c'est tout le pouvoir législatif, politique, diplomatique. Et puis les valeurs, c'est tout ce qui unit une société. Une société qui n'est pas unie autour de valeurs, c'est une société qui n'est pas, qui n'existe pas ou qui n'aura pas très loin. Vous avez le culturel, la vérité, la justice, la liberté, la charité, le spirituel aussi. Alors est-ce qu'on peut appliquer ça à l'Église? Une société, si elle n'a pas ses trois pieds, elle ne peut pas fonctionner. La force et le droit interagissent toujours. Je vous donne un petit exemple pour revenir à mon panneau 130. Vous allez vite le comprendre. Vous avez le droit qui dit « interdit de rouler à plus de 130 ». Si vous n'avez pas la force, c'est-à-dire le radar en bord de route qui vous flash et qui vous impose une amende, le panneau 130, il n'a aucune valeur. Il servira à rien. Donc il faut la force pour appliquer le droit. Par contre, si la force et le droit fondent la société sans valeur, vous tombez dans une société dictatoriale qui se moque de savoir sur quel fondement elle s'appuie. Elle a le droit à son service et la force armée à son service. Une société qui se fonderait sur des très belles valeurs avec un très beau droit, mais encore une fois sans force, est une société qui n'ira pas loin, etc., etc. Alors à l'Église, est-ce qu'on a ça? Quelle est notre valeur à l'Église? L'Évangile. L'Évangile. La bonne nouvelle est la parole de Dieu. Dieu, dans son magistère, dans sa parole, nous a laissé tout ce qu'il faut pour que la société, d'abord ecclésiale, et puis ensuite l'humanité, soit conduit à la sainteté et à la justice. Est-ce que l'Église a un droit? Eh bien, l'Église s'organise en ce monde. Comme le dit le Concile Vatican II, vous savez, l'Église, c'est une belle réalité spirituelle, et puis c'est une réalité incarnée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas saints, il faut s'organiser. Parce que sinon, vous allez avoir des curés autoritaires, pardon, monsieur le curé, vous allez avoir des évêques autoritaires, peut-être même un pape autoritaire, c'est possible, etc. Et vous allez trouver toutes les déviances. Voilà. Donc, l'Église a un droit. Et puis, elle a un droit parce qu'elle est une force diplomatique en ce monde. Elle est une force diplomatique. Et l'Église, est-ce qu'elle a une force? Ah.
Communication.
Alors, elle a une force parce qu'effectivement, elle a un droit pénal. Donc, elle dit, attention, je condamne, je peux condamner aussi. Mais la première des forces de l'Église, ce sont les sacrements, qui découlent de la valeur de l'Église et que le droit va réguler. Vous savez, pourquoi on régule les sacrements? Parce qu'en fait, si on donne la grâce à tout vent comme ça, eh bien, ça ne va pas aider les gens à grandir. Comme dit saint Paul, il faut qu'on sache donner le lait aux petits-enfants et la nourriture solide aux adultes. Et donc l'Église, quand elle régule ses sacrements, c'est d'abord en vertu d'une pédagogie et pour faire grandir les gens. Et donc vous voyez que ce trépied, force, droit, valeur, il est aussi réaliste pour l'Église. Nous avons une vraie force, la force sacramentelle, nous avons un droit pénal, et puis nous avons une valeur qui est l'Évangile que nous essayons de traduire en acte. Alors le droit canonique, il va embrasser tout ça. Il va essayer de réguler toute la vie de l'Église. Et dans tous ces domaines, l'Église va essayer d'organiser encore mieux la vie communautaire. Alors le droit canonique va réguler votre vie de paroisse. Votre curé, il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Hein? C'est vrai? Voilà. L'Église va organiser ses tribunaux, l'Église va organiser les diocèses, et puis l'Église, et on l'oublie trop souvent, elle a un droit qui va rentrer en dialogue avec les autres droits. L'Église est une puissance internationale. Le Saint-Siège, c'est un État souverain. Et pourquoi c'est un État souverain? C'est pas parce que ça permet au pape d'avoir une banque et d'avoir les financements qu'il veut, etc., etc. Justement, le droit est là pour protéger la liberté de l'Église. Oui. Quand il y a eu, pour pas vous cacher les choses, hein, enfin, pour avoir un langage clair, quand aux États-Unis, il y a eu tous ces procès par rapport aux prêtres pédophiles, eh bien, on a voulu attaquer le pape et le faire condamner de la même manière que les évêques et les prêtres. Et en fait, heureusement que le droit international a protégé le chef de l'État souverain du Vatican. Vous voyez ? Et donc le droit, il est là aussi pour protéger la liberté institutionnelle de l'Église. Et c'est pour ça que le droit de l'Église est une force diplomatique au service de la mission de l'Église, qui du coup peut être représenté dans toutes les instances internationales. Donc vous voyez, le droit canonique, ça n'est pas seulement notre tambouille ecclésiastique de savoir ce que peut faire un vicaire général, un vicaire épiscopal, un vicaire de paroisse, un curé, etc., etc. Et puis, je vous l'ai dit, il y a l'organisation de la justice ecclésiastique, des tribunaux ecclésiastiques. Alors, il y a les procès de nullité de mariage, dont je vais vous parler dans quelques instants. Et puis, il y a d'autres procès. Il y a des procès plus rigolos et plus drôles que sont les procès de béatification et les procès de canonisation. Quand même, ça vaut le coup d'en parler de temps en temps. Les juges, on n'est pas seulement là à se plaindre sur les souffrances des hommes. C'est d'ailleurs, petite parenthèse, de là que vient la célèbre expression de l'avocat du diable. Parce que dans chaque procès canonique, il y a quelqu'un qui est censé titiller les juges jusqu'au bout, pour être sûr qu'ils prennent la bonne décision et qu'ils ne se laissent pas influencer. Alors dans un procès pour une nullité de mariage, on appelle ça le défenseur du lien, le défenseur du mariage. Lui, il n'est pas là pour défendre le fait que les époux ne se sont pas mariés, il est là pour dire « non, 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 je crois que le mariage est valide » et il va titiller les juges jusqu'au bout, donc le défenseur du lien. Et puis dans les procès de canonisation et de béatification, on l'appelle l'avocat du diable. C'est lui qui va défendre non pas la sainteté du candidat, mais ses petits travers, pour être sûr que les juges ne se laissent pas trop influencer ou ne vont pas prendre leurs décisions trop vite. Donc tout ça pour vous dire que dans la justice ecclésiastique, il y a toutes ces formes de procès. Et puis, vous savez, il y a aussi malheureusement les procès contre les prêtres qui, par exemple, font des bêtises. Ça arrive et on est aussi obligé de les traiter. Et c'est une œuvre de miséricorde à l'encontre du prêtre et à l'encontre des victimes. Mais profondément, et c'est là-dessus que je voudrais insister, la miséricorde, la justice ecclésiastique est une œuvre de miséricorde. Pourquoi ? Parce que c'est une œuvre qui va essayer ou qui va s'approcher le plus près de la vérité des choses. De la vérité des choses. voyez, la justice ecclésiastique est une justice qui prend son temps, est une justice qui prend le temps de l'écoute. Et c'est là-dessus que je voudrais peut-être le plus insister concernant les procédures de reconnaissance d'invalidité du mariage. Alors, petite parenthèse, il n'y a pas de nullité de mariage. Il n'y a pas d'annulation de mariage. Qu'est-ce que fait le juge ecclésiastique quand il se penche sur l'histoire d'un couple ? Il se penche justement sur ce qui s'est passé au moment du mariage. Et il se dit, ce juge ecclésiastique, deux êtres se sont aimés et ils se sont dit oui à un moment donné. Est-ce qu'on se marie parce qu'on s'aime ? Non. Je dis toujours ça à mes fiancés quand ils viennent me voir. Je fais exprès de leur poser la question. Pourquoi vous voulez vous marier ? Bah parce qu'on s'aime, mon père. Bah, très mauvaise raison. On se marie parce qu'on veut s'aimer, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc le juge ecclésiastique, il va se pencher sur ce « oui ». Sur ce « oui ». Alors vous savez, il n'y a pas de juge civil parmi vous. Il n'y a pas d'avocat non plus. Pardon ? Ah oui, c'est ça. Donc, je peux me lâcher. Donc, quand un couple va devant les tribunaux civils pour divorcer, monsieur le juge civil, il fait quoi ? Il regarde si financièrement, il n'y a pas de problème. Il regarde si les gamins seront bien gardés le week-end A et le week-end B. Mais alors, ce qui s'est passé dans le couple, il n'en a rien à faire. Il ne veut pas le savoir. Et il ne demande pas à le savoir. Et il ne demande pas à trancher les responsabilités. C'est hyper infantilisant. Alors que la justice canonique, elle fait quoi ? Elle se dit, vous savez, le bon Dieu ne vous prend pas pour des gamins et ne vous prend pas pour des imbéciles. Et le sacrement du mariage, ce n'est pas un truc automatique. Les sacrements, ils sont régulés. C'est-à-dire que pour les recevoir, il y a des conditions. Et il y a des conditions, notamment de liberté, et de maturité. La liberté, c'est pas le fait d'être jamais marié avant. Ça, globalement, c'est une liberté facile à vérifier. La liberté, c'est profondément une liberté interne. L'homme ne pose un acte humain, comme le dit saint Thomas d'Aquin que nous fêtons aujourd'hui, que quand il est profondément libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas contraint par une force extérieure, par une pression, par des blessures psychologiques. Vous savez bien que l'éducation, c'est d'essayer de faire grandir un homme et une femme pour que profondément, ils deviennent libres. Et donc le juge ecclésiastique, quand il va se pencher sur ce « oui » qui a été dit un jour, oui, ce « oui », il a été dit physiquement. On a des photos, il y avait monsieur le curé, on a signé des registres, on n'efface pas l'histoire. Mais l'Église, justement, elle se dit « L'homme est trop important aux yeux de Dieu pour se le réduire à un acte historique. » Si cet acte historique ne remplissait pas les conditions, alors la miséricorde de Dieu, parce que c'est une miséricorde, Dieu se dit « Je vais te dire vraiment ce qui s'est passé dans ton cœur à ce moment-là. » Et c'est une miséricorde de Dieu que de pouvoir dire à l'homme, tu croyais poser un acte, mais tu n'as pas pu le réaliser. Ça n'était pas possible. Tu n'avais pas la liberté intérieure, tu n'avais pas la maturité suffisante, tu n'avais pas la connaissance suffisante. Et alors, voyez, pour un mariage, on dit que pour célébrer un mariage, il y a quatre piliers. La liberté, la fidélité, l'indissolubilité et l'ouverture à la vie. Globalement, la liberté, je vous l'ai un peu expliqué. Les trois autres piliers, fidélité, indissolubilité, ouverture à la vie. Il y a deux manières de connaître ces piliers. La première, c'est la connaissance intellectuelle. Il faut que je sache à quoi je m'engage. C'est très juridique. Quand on signe un contrat, vous devez savoir ce qu'est un contrat. Si on vous a planqué une cause, contrat nul. Si vous n'étiez pas d'accord sur une clause et que vous l'avez bien marqué, signifié, contrat nul. Quelqu'un qui s'engage en disant « je ne suis pas d'accord pour être ouvert à la vie, pour avoir des enfants par exemple, Eh bien, dans ce cas-là, ça invalide le mariage. Il n'a pas rempli le contrat. Il n'était pas d'accord avec les conditions de ce contrat, de ce consentement. Ça arrive parfois. Et vous savez, l'homme est ce qu'il est, la femme est ce qu'elle est, et donc on peut mentir, on peut déguiser la vérité. Le jour du mariage, quand monsieur le curé leur dit « Est-ce que vous vous engagez librement et sans contrainte ?»« Oui, oui. » « Est-ce que vous vous engagez pour la fidélité pour toute votre vie ?»« Oui. » « Est-ce que vous vous engagez à l'ouverture à la vie ?»« Oui. » Et puis on ne fait pas derrière, c'est non. Voilà. Et donc, pour l'un des deux qui a été trompé, bah, il faut bien lui poser un acte de vérité qui est un acte de miséricorde pour lui dire « Tu n'as pas été vraiment engagé dans ton cœur et dans ton corps. » Mais ça, c'est la connaissance intellectuelle. C'est facile de la juger. D'ailleurs, petite parenthèse, on réduit souvent les préparations au mariage à cette connaissance intellectuelle. Vous êtes d'accord ? Oui. Bon, bah, ça va. Mais autre chose est de scruter la capacité. Il ne suffit pas d'être d'accord sur un pilier du mariage ou sur les piliers du mariage. Encore faut-il avoir la capacité de le vivre. Vous allez me dire, bah, est-ce qu'on n'a pas tous les capacités de vivre le mariage ? Je vous donnerai un exemple. Je connais parfaitement les règles du rugby. Mais je suis taillé comme un cure-dent. Je n'ai pas les moyens de jouer au rugby. Je peux les connaître par cœur. Je peux connaître toutes les finesses du jeu, etc. quand je suis devant mon poste de télévision. Si vous me mettez sur un terrain de rugby, ou alors avec votre vicaire au mois de juin, j'ai fait la Padre Cup, je connais bien comment le quartier fonctionnait, hein, j'ai fini dernier. Vous voyez ? Bon. Et donc, je n'avais pas la capacité de vivre cela. Et cela, eh bien, ça se discerne, ça s'approche. Alors, normalement, c'est le but d'une préparation au mariage que d'essayer d'approcher cette capacité pour que les gens soient non seulement conscients de leurs engagements, mais qu'ils aient la maturité suffisante pour pouvoir dire un oui qui sera un oui entier. Non pas seulement intellectuel, mais qui sera un oui intellectuel, corporel, spirituel, mature. Vous savez comment l'Église, elle définit la maturité et l'éducation ? L'éducation pour l'Église, c'est la formation intégrale de la personne humaine qui lui permet d'être mature. Formation intégrale. Il ne suffit pas de connaître quelque chose. Et donc, en fait, le juge ecclésiastique, il va, j'allais dire tout simplement, se pencher là-dessus. Est-ce que vous aviez les capacités humaines pour dire ce oui que vous avez dit un jour ? Et là va commencer cette véritable œuvre de miséricorde, c'est qu'on va permettre aux gens de relire leur histoire, ce que la justice civile ne fait pas. Et on va écouter, et on va questionner, et on va interroger. Vous savez, quand je fais des auditions, maintenant je suis juge de seconde instance, donc j'en fais un peu moins. Mais quand on fait des auditions dans les officialités, ce sont de véritables confessions qui, en fait, amènent les gens à faire la vérité sur une part de leur histoire qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs. Parce que tout le monde, s'en fout. C'est tellement facile dans la société de dire « Oh, ben, t'as vécu une souffrance dans ton couple, ben, c'est par toi et choisis-en un autre. » Est-ce que c'est respectueux de la dignité de l'homme ? Alors que la justice ecclésiastique, eh bien justement, par miséricorde, elle se penche sur cette histoire, et en faisant la vérité sur cette histoire, elle va dire à la personne, « Eh bien oui, je reconnais avec toi que tu n'étais pas en capacité de t'engager. Tu n'étais pas en capacité de faire un choix libre. Tu n'étais pas en capacité de faire un choix mature. » Et on va permettre à la personne d'être libérée de ce lien qui devenait culpabilisant. Et puis parfois, on va dire à la personne, « Eh bien, tu vois, c'était un vrai lien que tu as fait. C'était un vrai mariage. » Mais au moins, ça aussi, c'est une œuvre de miséricorde. Parce que du coup, les gens sont face à la vérité du lien. Vous savez, l'acte de juger, Ce n'est pas de la procédure. Pape François nous a simplifié les procédures, mais lui-même en est conscient, il n'en est pas dupe, et il l'a dit d'ailleurs dans une interview, simplifier les procédures ne résout pas grand-chose. Parce que l'acte de juger est grave. Vous savez, je ne sais pas, les prêtres, comment vous le vivez, moi, quand je marie au nom de Dieu. Ça me tétanise. Parce que je me dis, j'espère que je les ai bien préparés au mariage, parce que si dans 5 ans, il y a une grave crise de couple, je serai quand même un tout petit peu responsable. Je ne serai pas le seul responsable, évidemment. Enfin, j'aurai quand même ma part de responsabilité. Je dis souvent dans les conférences que je fais sur les questions de la famille que l'Église a aussi à faire un petit mea culpa sur toutes les crises conjugales, vu la manière dont on a préparé au mariage il y a 15 ou 20 ans. Bon. Le prêtre qui a 10 ans d'ordination que je suis, c'est un peu facile de taper sur les collègues, mais enfin bon, il y a quand même un moment donné où il faut qu'on reconnaisse aussi ce qu'on n'a pas fait. Donc, quand je marie au nom de Dieu et je tiens la place de Dieu. Le prêtre, quand il célèbre la liturgie, c'est « In nomine Christi », au nom du Christ. Mais je peux vous dire que quand je juge de la nullité d'un mariage, je dis aussi au nom de Dieu et de Jésus que ce mariage n'a jamais existé. Acte grave de miséricorde qui peut soulager une conscience, mais qui la soulage seulement si c'est fait dans la vérité. Il ne suffit pas de dire aux gens, comme le fait la société civile, ben, « remariez-vous et puis tout va bien », ça ne gomme jamais les souffrances du passé. Et donc, vous voyez, la justice dans l'Église, c'est ça. La justice dans l'Église, c'est objectivement prendre le temps d'écouter les personnes, et comme le disait le livre d'Osée, c'est de conduire les gens dans la justice et dans la vérité. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as vécu? Alors oui, et je vais finir par là, ça peut vous sembler ce qu'on appelle parfois en droit une fiction juridique. C'est-à-dire qu'on dit bah, « ce mariage, il n'a pas eu lieu ». Bah oui, mais enfin, il y a les photos, il y a les registres, etc. Bah oui, mais ce mariage, il n'a pas eu lieu. Parce qu'il ne suffit pas de la forme pour qu'un acte soit vrai. Il faut le fond. Et quand le cœur n'est pas associé à ce que fait le corps, eh bien, ça n'est pas un vrai acte. Voilà. Et le cœur, pour l'Église, c'est encore une fois toute cette maturité. Et puis, l'Église, elle fait œuvre de miséricorde aussi quand, à travers son droit pénal, elle impose parfois des peines à des prêtres qui font des bêtises, etc. Mais une des particularités du droit pénal dans l'Église, c'est qu'on dit que c'est un droit médicinal. Quand l'Église pose une peine à quelqu'un, c'est toujours en vue de sa conversion. Voilà. Et c'est ce dont, d'ailleurs, notre droit pénal français aurait bien besoin. Je ferme la parenthèse. Mais c'est de conduire la personne, le condamné, pour qu'il se convertisse, pour qu'il s'améliore, pour qu'il fasse la vérité sur ses actes. Vous savez, il n'y a jamais de miséricorde sans justice. Comme disait Jean-Paul II, il n'y a pas de paix sans pardon. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de pardon sans justice. Enfin, je me mélange là. Bref, vous m'avez compris. Donc, la miséricorde découle de la justice. J'aime bien donner un exemple aussi pour montrer combien la justice et miséricorde sont liées. Quand le juge civil comprend qu'il y a des circonstances atténuantes pour diminuer la responsabilité de quelqu'un, c'est aussi un acte de miséricorde. Il dit, il y a eu faute, tu es coupable de cette faute. Mais je comprends ton état d'esprit, ce que tu as vécu, etc. Il y avait des circonstances atténuantes, je diminue ta peine. Mais la miséricorde ne peut se faire que par rapport à une faute. Si la faute n'est pas avouée, et dans le livre d'Osée, on l'a eu tout à l'heure, hein, tu avoueras tes crimes. S'il n'y a pas d'aveu, s'il n'y a pas de reconnaissance de faute, comment peut-on pardonner? Comment peut-on conduire le pécheur dans la justice, dans la miséricorde et dans la rémission, dans le pardon? Et c'est pourquoi justice et miséricorde sont intimement liées et que dans l'Église, nous avons tout ce beau droit avec aussi toutes les procédures qui vont avec parce qu'il faut être garant d'un bon fonctionnement de la justice. Vous savez, les juges ecclésiastiques, on n'a pas la science infuse. Et donc, heureusement que de temps en temps, on a un avocat de la partie adverse, là pour être très procédural, qui vient nous dire « Mais attendez, vous n'avez pas vu ça ?» Et puis qu'il y a un défenseur du lien qui vient nous titiller et qui nous dit « Ah bah oui, mais là, vous êtes un peu trop gentil quand même avec les nullités de mariage. Hein. Donc, soyez un peu plus ferme. Voilà. » Parce qu'en fait, si on obtient la nullité de mariage trop facilement, ben, en fait, c'est toute l'institution qui s'effondre.
Collégiale.
Et donc, dans la justice ecclésiastique, une décision ne se prend jamais tout seul, sauf exception. On est au moins 3 juges à décider d'une nullité de mariage. Voyez ? Et donc, toutes ces règles ecclésiastiques sont pour essayer de protéger quoi ? Eh bien, de protéger la vérité de Dieu. Parce que l'Église, sa première mission, c'est de parler au nom de Dieu. Est-ce qu'une grâce a été donnée ou est-ce qu'une grâce n'a pas été donnée ? Voilà. Je m'arrête là, il est 10h05, on m'avait dit 10h05.